Bonjour, ici Grégory Philips, je suis le chef du service reportage de BFM TV. C'est un épisode majeur de cette guerre en Ukraine qui vient de se produire avec la destruction partielle du barrage de Kakhovka, provoquant de gigantesques inondations des deux côtés d'ailleurs du fleuve Dniepr, du côté russe comme du côté ukrainien. En Ukraine, des dizaines de villages ont été inondés, ainsi que la grande ville de Kherson dans le sud du pays, avec ces images hallucinantes d'habitants ou d'animaux évacués en barque et abandonnant leurs maisons. Dès l'annonce de cette catastrophe, nos deux envoyés spéciaux en Ukraine, Nicolas Coadou et Gabriel Orion, ont foncé vers Kherson, où ils sont arrivés hier soir en pleine nuit. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le mercredi 7 juin, il est 16h à Paris, 17h à Kherson. Dans Kherson inondé, nos reporters racontent, c'est le 50e épisode du service reportage. Salut Nicolas et Gabriel.
Salut Greg.
Salut.
On va commencer par le début. Quand avez-vous appris l'explosion, la quasi-destruction de ce barrage et où étiez-vous à ce moment-là ?
Alors on l'a appris avant-hier, en fait, au réveil. On était à Drouchkivka, donc c'est un village en plein milieu du Donbass. On était là-bas pour essayer de suivre l'avancée de la contre-offensive ukrainienne dont on entend parler depuis très longtemps. Et le matin, on commence à voir les premiers push, la première alerte de Zelensky. Donc très rapidement, on comprend que ça va être gros, en fait, l'explosion de ce barrage. Elle était redoutée, on entendait parler de ça depuis un peu plus d'un an. Donc très rapidement, on comprend que ça va changer totalement le cours de notre mission.
Et donc là, vous êtes dans le Donbass, c'est-à-dire dans l'est du pays. Et assez rapidement, vous décidez de prendre la route pour aller vers le sud, c'est ça ?
Bah d'abord, on s'est demandé où on allait exactement, parce qu'avant de prendre la route, il faut avoir une destination. Donc là, on avait plusieurs choix. En fait, le barrage qui a explosé a inondé... plus de, je crois que c'est 70 ou 80 villages en aval, dont la grande ville de Kherson, ville libérée à l'automne dernier. Donc l'idée, c'était soit d'aller directement à Kherson, ce qui était plus long par la route et un peu indécis à savoir est-ce qu'on allait pouvoir rentrer ou non, soit aller plutôt au niveau du barrage et redescendre le long du Dniepr pour essayer de trouver des villages qui subissaient des inondations.
Ok, donc là, vous prenez la route et effectivement, le cours de votre mission change radicalement. Et comment ça se passe quand vous approchez des zones inondées ?
Là, c'est le début d'un très long périple parce que déjà, pour arriver sur les zones inondées, il faut passer les checkpoints. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ukraine, à peu près tous les journalistes le savent, travailler dans l'Est, c'est relativement facile. Travailler dans le Sud, c'est très compliqué parce qu'il y a des checkpoints extrêmement réguliers. Et en fait, si on regarde la géographie de l'Ukraine, tout la rive sud du Dniepr, elle est contrôlée par les Russes. Donc en fait, nous, notre objectif au début, c'était de longer le Dniepr. Malheureusement, c'est extrêmement compliqué. On ne nous a pas laissé passer. Donc là, on part pour environ 12 heures de voiture à faire des demi-tours, à négocier au checkpoint avant de finalement arriver dans la ville de Kherson à minuit, donc plus de 12 heures après notre départ.
Juste pour qu'on comprenne bien, quand tu parles de checkpoint, c'est-à-dire que tu arrives, tu as des militaires en armes qui t'interdisent d'aller plus loin.
Exactement, en fait on roule et puis d'un coup il y a plusieurs blocs de béton qui barrent la route. Alors là c'est arrêt obligatoire, on fait la queue, on attend notre tour. Et là c'est toute une négociation avec les militaires. Donc on présente nos accréditations militaires puisque nous en tant que journaliste français on est accrédité par l'État ukrainien, voilà, qui nous autorise à travailler sur le territoire. Donc on a des fiches d'accréditation à notre nom, ça peut nous permettre de passer certains checkpoints. Mais là en l'occurrence ce qu'ils nous expliquent les militaires, c'est qu'ils ont interdiction de laisser passer les journalistes sur cette zone. Donc nous, on se retrouve bien embêtés parce qu'on leur explique qu'il faut aller couvrir ça. C'est quelque chose d'extrêmement important. Les autorités ukrainiennes parlent de crimes contre l'humanité. Donc nous, on essaie d'argumenter en leur disant qu'il faut que ce soit sur les télés du monde entier. Mais on se rend compte très rapidement que c'est très compliqué. Donc c'est là qu'on décide finalement de reprendre des chemins un peu plus officiels, des grandes routes, et d'arriver à Kherson.
Une dernière question sur ces petits villages où vous n'avez pas pu aller. Pourquoi est-ce qu'on refuse l'accès pour des questions de sécurité ? Parce qu'ils sont inaccessibles, parce que déjà sous l'eau ? Enfin, est-ce que vous avez compris pourquoi ?
C'est essentiellement pour des questions de sécurité, mais plus liées à la guerre que liées à cette inondation. C'est-à-dire qu'en fait, les villages ukrainiens de cette rive du Dniepr, ils sont juste en face de l'autre rive. Et l'autre rive, en fait, elle est contrôlée par les Russes. Donc, si tu veux, c'est un endroit où les deux armées se font face, et donc c'est des villages qui sont en zone rouge. Sauf que dans le sud de l'Ukraine, la particularité, c'est que les officiers de presse de l'armée sont très stricts, et depuis la libération de Kherson, ils refusent quasiment systématiquement la présence de journalistes dans ces zones rouges et dans ces villages.
Je me permets de rebondir aussi, ce qui complique fortement l'accès, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup de contre-offensive et tout le monde se demande où elle pourrait mener. Mmh. Une des théories, ce serait de la mener plutôt vers le sud. Et généralement, on commence à avoir l'habitude. On a tous les deux couvert la première contre-offensive en septembre dernier. On se rendait compte que les semaines qui précédaient cette contre-offensive, il y avait ce qu'on appelle un blackout. Ça veut dire que forcément, pour maintenir un brouillard sur les plans de l'armée, eh bien, on ne laisse pas passer les journalistes, on donne très peu d'infos. Et ça, ça ne nous a franchement pas facilité la tâche.
Après, ça, c'est une situation qui concerne l'ensemble de l'Ukraine, puisqu'il y a d'autres fronts probables pour cette contre-offensive, notamment le Donbass. On a aussi les incursions au nord, côté russe. Donc, vraiment, en tout cas, moi, ce que j'ai noté depuis que je vais en Ukraine, c'est que dans le sud, c'est particulièrement verrouillé pour la communication.
D'accord. Donc, finalement, vous reprenez une autre route qui passe, je crois, par Kriviri, puis Mykolaïv, si je ne me trompe pas, pour aller vers le sud.
Exactement.
Et donc, vous arrivez à proximité de Kherson. Là, l'accès est facile, possible ?
Alors, il n'est pas forcément facile, parce qu'officiellement, ce que nous expliquent les autres... Déjà, il faut savoir que nous, on travaille avec notre fixeur. Hein. Je préfère le préciser pour ceux qui ne savent pas. Un fixeur, c'est un Ukrainien qui est avec nous tout le temps et qui est vraiment indispensable. C'est lui qui fait les traductions, c'est lui qui parle, parce qu'il parle ukrainien, qui parle aux militaires sur les checkpoints, c'est lui qui a beaucoup de contacts. Donc, très rapidement, notre fixeur, il s'appelle André, il nous explique que tous les autres fixeurs, des autres journalistes occidentaux ou du monde entier, râlent parce que c'est très compliqué d'accéder à Kherson. Donc là aussi, on comprend que ça va être compliqué. Là où on a eu de la chance, c'est que notre fixeur a un très bon contact avec une officier de presse, donc c'est un membre de l'armée et qui est chargé de gérer les liens entre l'armée et les journalistes, et qui nous assure qu'on pourra rentrer à Kherson si on est bloqué au checkpoint. Elle nous dit « Passez-moi un coup de téléphone et vous pourrez rentrer ». Alors effectivement, on arrive au checkpoint et là, très facilement, il nous laisse rentrer dans Kherson.
Mais ça, c'est assez...
Là, il est quelle heure ?
Je pense qu'il doit être minuit heure locale, donc 23h heure française. Mais ce qui est assez magique, c'est que vraiment il prononce juste le nom de cette dame, et qu'il n'y a pas de vérifications qui sont faites, pas de coup de fil passé par le militaire. C'est vraiment un laissez-passer. Et c'est assez bluffant.
Nous-mêmes, on a été surpris. On s'attendait à passer des minutes et des minutes au checkpoint, à présenter les accréditations. Au final, en 30 secondes, l'affaire était dans le sac et on était dans Kherson, prêt à faire notre premier duplex pour l'antenne.
Qu'est-ce que vous voyez ?
Alors là, on arrive. Nous, forcément, on sait que les quartiers qui sont le plus inondés, c'est ceux qui sont proches du Dniepr, hein, le fleuve qui borde la ville de Kherson. Donc très rapidement, on se dit, il faut très rapidement montrer qu'on est là, pouvoir montrer... au public français, aux spectateurs de BFM TV, ce qui se passe
les
à Kherson. Donc la priorité, c'est de mettre des premières images et se mettre en direct. Alors on se rapproche du Dniepr, on trouve la première rue inondée, et là on fait un premier duplex. Je crois qu'il est 23h30 heure française, quelque chose comme ça.
Alors il y a des petites techniques. Moi, comme je suis JRI, donc journaliste reporter d'images, c'est-à-dire que on ne voit rien. C'est nuit noire, le couvre-feu, donc il y a pas un lampadaire allumé. Donc le danger, c'est qu'on est Nicolas. Éclairé finalement sur un fond noir et qui pourrait être n'importe où. Donc ce qu'on décide assez vite, c'est d'allumer les phares de la voiture. C'est une petite technique, ça permet en fait de voir un peu ce qu'il y a derrière. Mais il ne faut pas non plus mettre les pleins phares parce qu'on est en couvre-feu. Et l'idée, ce n'est pas non plus d'être le seul point lumineux de la ville ce soir-là.
Ouais. Que voyez-vous, qu'avez-vous vu en arrivant à Kherson ce soir ?
Bonsoir Maxime, je vais vous le montrer. Ce qu'on voit, c'est des quantités d'eau absolument affolantes. Hein, Kherson, c'est une grande ville du sud du pays qui est située en rive du Dniepr, hein, ce grand fleuve qui traverse l'Ukraine. Et bien, le fleuve est monté de 3,24 m. Et bien, regardez mes pieds, nous sommes à une soixantaine de mètres du Dniepr et pourtant, l'eau continue à monter. Elle a envahi toutes les rues de cette ville et pénètre même dans certaines habitations, à tel point, vous l'avez dit, que cette ville de Kherson doit être évacuée, du moins en grande partie. Certaines personnes au début de la journée pensaient que ça n'allait pas monter très vite, qu'ils ne allaient pas s'évacuer. Eh bien, ils ont très rapidement changé d'avis en voyant la montée très rapide des eaux. Ce sont d'ores et déjà 1200 personnes qui sont évacuées rien que sur cette ville de Kherson.
Donc là, vous êtes en plein milieu de la nuit, dans une ville en partie inondée, souvent soumise à des bombardements. Vous avez fait un premier duplex pour raconter ce que vous avez vu. Après, il y a tout un problème logistique, c'est où est-ce qu'on dort, enfin, où est-ce que vous avez trouvé à boire ou à manger. Enfin, il y a aussi ce côté vie quotidienne qu'il faut gérer en même temps, j'imagine.
Absolument, ça c'est quelque chose qu'on a préparé donc, avec notre fixeur, Ambry, pendant le trajet. Très rapidement, on comprend qu'il y a beaucoup de journalistes internationaux qui sont allés à Kherson. Tous ont fait comme nous, hein. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, ils ont laissé de côté tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont filé à Kherson. Très rapidement, on apprend qu'il n'y a pas de place dans les hôtels. Voilà, il y a plusieurs options maintenant, dormir chez l'habitant ou dormir dans la voiture. Très rapidement, on évalue avec la rédaction que c'est pas un bon plan de dormir dans la voiture, ouais. Parce que Kherson, c'est une ville qui a porté d'artillerie russe, c'est extrêmement dangereux, et on sait qu'on a une très grosse journée le lendemain, donc il faut prendre des forces. Et donc
ouais, là, dormir grâce... dans la voiture, moi j'y étais assez opposé quand même.
Effectivement, et on comprend pourquoi. Mais fort heureusement, notre fixeur a un très bon contact avec un prêtre à Kherson, avec qui il a fait un reportage avec un autre média il y a quelques mois. Il appelle ce prêtre et ce prêtre avait un petit appartement qui nous propose de nous louer pour quelques grivnas pour okay. plusieurs nuits. Et là, on arrive dans cet appartement. Pour y passer quelques heures, pour tout te dire, ça ressemble un peu à chez ma grand-mère, on dirait un petit endroit hors du temps, avec voilà, des tapis, ouais. beaucoup de poussière, très vieillot. Hein. C'est un appartement qui a été abandonné il y a plusieurs mois, je pense, donc on le retrouve un petit peu dans son jus. Mais nous, on est heureux parce que déjà, on a un lit pour pouvoir dormir quelques heures, et puis une base arrière avec de l'électricité, du Wi-Fi, et ça, c'est des choses qui sont indispensables pour notre métier.
Le lendemain matin, premier direct, dans la matinale de... BFM TV.
D'abord donc Kherson en direct, la ville, vous le savez, se trouve dans la zone inondée après la destruction il y a un peu plus de 24 heures d'une partie du barrage de Kakhovska dans le sud du pays.
Nicolas Coidou, vous êtes arrivé tard dans la soirée à Kherson avec Gabriel Orion. Racontez-nous d'abord à quoi ressemble la ville ce matin. Il est 8 heures en ce moment à Kherson.
Le lendemain matin, forcément, on se lève très tôt. L'idée, en fait, c'est de trouver un endroit intéressant à filmer. Intéressant pour nous, ça veut dire un endroit où les maisons sont inondées. Donc, on prend la voiture et on longe en fait le Dniepr pour trouver une route qui va nous mener finalement entre deux maisons à une zone inondée. Et on est vraiment confronté là d'un coup à l'image, puisque la nuit on le voyait pas. En face de nous, on voit en fait de l'eau jusqu'au toit des maisons. Voilà, c'est-à-dire qu'à 20 mètres devant nous, il n'y a plus que le toit des maisons qui apparaît au-dessus de l'eau.
On a tout sous nos yeux en fait, on a l'eau, l'enjeu c'était de montrer que l'eau continue à monter, donc on a un endroit où l'eau peut monter, et là c'est là que Gabriel a une très bonne idée, c'est de poser une pierre au bord de l'eau pour voir à quel moment l'eau va dépasser cette pierre. Ça permet de rendre compte à l'antenne, aux téléspectateurs, à quel point l'eau monte vite.
Nicolas Demo, on a l'impression, parce que vous étiez avec nous il y a une heure, que l'eau continue de monter. Le barrage, il est à combien de kilomètres de Kherson ?
Le barrage, il est à 60 kilomètres au nord de Kherson. Ça veut dire que toutes les localités, environ 24 qui se situent entre Kherson et le barrage, ont été totalement inondées. Et oui, l'eau continue de monter. Regardez, on s'est permis de mettre un petit témoin. Lorsqu'on s'est parlé tout à l'heure, il y a une heure, nous avons placé cette pierre. Hein. Quand on l'a placée, elle n'était pas encore immergée. Regardez, en moins d'une heure, l'eau est déjà montée. Et oui, elle monte à vue d'œil. Rien que cette place qui se situe derrière moi, les habitants nous confiaient qu'hier soir à 19h, elle était totalement sèche désormais. Il y a plus d'un mètre cinquante d'eau au milieu. Et ce n'était pas terminé puisque le pic de cette crue devrait être atteint en milieu de journée et la situation devrait revenir à la normale seulement d'ici 3 à 4 jours. Très rapidement, tout se passe autour de nous. On a des policiers qui viennent toquer chez les gens pour leur dire d'évacuer. On a des personnes en pleurs qui nous parlent, qui nous disent qu'elles ne veulent pas partir, qu'ils ont déjà vécu l'occupation des Russes, qu'ils ont vécu les bombardements depuis plusieurs mois et maintenant ce qu'ils qualifient d'un déluge. Donc très rapidement, les gens viennent spontanément à nous, à notre micro pour nous parler.
Et ce qui est impressionnant c'est la mobilisation générale, c'est-à-dire que partout on entend des bruits de pompes en fait, et c'est les pompes qui gonflent les petits bateaux, enfin qu'on appelle en France les zodiacs, je pense qu'on peut ouais. le dire. Voilà, et tout le monde gonfle ses petits bateaux, sort les barques des garages et va sur le Dniepr gonflé pour aller récupérer ou des affaires dans des maisons ou des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. On a même des animaux qui arrivent, il y a des camions qui viennent avec avec des petites cages pour les mettre à l'intérieur, puisque certains animaux ont été abandonnés dans des maisons. Donc c'est un peu l'arche de Noé au bord du Dniepr, mais surtout, vraiment, il y a une grande solidarité et des gens qui arrivent de partout en Ukraine pour aider et pour tenter de sauver ce qui peut l'être.
Tout ça dans une ambiance de guerre. Est-ce que vous entendez des combats au loin? Est-ce que la ville continue à être bombardée?
Oui, totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue géographique, Kherson, voilà, c'est au bord du Dniepr. Les Russes sont encore stationnés de l'autre côté. Donc, ils sont à quelques kilomètres. La ville, elle est à portée d'artillerie. Gabriel et moi, on est tous les deux, les mois précédents, allés à Kherson. Donc, on connaissait cette ville. On sait que c'est une ville dangereuse. C'est une ville qui est à portée donc, d'artillerie des Russes. Et pendant la courte nuit qu'on passe dans cet appartement, on entend énormément de détonations. Donc, quand on travaille... à Kherson, on met les gilets pare-balles, on met le casque parce qu'on sait que c'est dangereux. Et c'est une ambiance qui continue toute la matinée pendant qu'on travaille. On entend des explosions au loin. Donc, ces explosions, plus cette inondation, ça donne vraiment un décor très, très impressionnant, il faut le dire. Oui.
Ensuite, c'est vrai qu'on vient de Droujkivka. Et Droujkivka, donc dans le Donbass, la ville dont on part le matin, c'est une ville qui est située à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, donc l'ambiance n'était pas forcément plus calme, donc on n'est pas dépaysé, on va dire, par le bruit des détonations. Ce qu'il y a à Kherson, c'est qu'on entend quand même plus de départs, c'est-à-dire de projectiles qui partent depuis le front ukrainien pour aller vers le front russe, que d'arriver, c'est-à-dire des frappes russes qui toucheraient Kherson. Enfin, en tout cas, c'est ce que je perçois au son.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce que l'eau du Dniepr peut continuer à monter?
Alors, les prédictions, c'était qu'au milieu de la journée, on allait attendre le climax de cette crue et qu'à partir de là, ça allait commencer à descendre très doucement avec un retour à la normale prévu dans 4 à 5 jours. Là, à l'heure où on se parle, Greg, il est 17h chez nous. Pour l'instant, on ne voit pas de décrue. On n'a pas l'impression que ça monte énormément plus, mais elle est déjà très haute. On n'a pas l'impression que l'eau descend pour l'instant.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Dniepr, c'est un très gros fleuve, un fleuve qui est très large en amont du barrage, mais aussi en aval. Et en fait, cette brèche, cette frappe, cette explosion donc, que les Ukrainiens attribuent aux Russes, finalement, elle fait se déverser l'eau en aval, donc ça monte. Mais au bout d'un moment, c'est un peu comme le principe des vases communicants, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, finalement, ça s'équilibre tout ça. Donc là, le moment où l'eau est à son maximum, elle va rester un petit moment à une hauteur stable avant de baisser très, très progressivement. Mais il ne faut pas s'attendre à une décrue éclair.
Ok. Une dernière question. Tous les deux, vous couvrez cette guerre depuis plus d'un an maintenant. Vous avez de nombreuses missions derrière vous en Ukraine. J'imagine que c'est parmi les scènes les plus surréalistes que vous avez vues, à savoir une catastrophe de cette ampleur provoquée par la guerre, ces inondations, cette ville inondée et bombardée à la fois.
Oui, totalement, c'est des images absolument lunaires. Alors, tous les deux, dans notre métier de journaliste, on a donc couvert la guerre. On a également couvert des catastrophes naturelles, à commencer par tout simplement des inondations en France. On apprend ça, on arrive à couvrir cette chose qui est un tournant historique de la guerre. Tout le monde en convient. C'est pour ça qu'on fait ce travail, je pense. C'est pour ça qu'on travaille pour une chaîne de télévision très news comme BFM TV et dans un service qui fait du reportage.
Après, c'est vrai que la particularité, comme tu le disais, Grégory, c'est que on couvre la guerre donc depuis un peu plus d'un an. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de maisons explosées, de villages détruits, désolés. On couvre aussi des actualités en France, des inondations importantes. On peut penser à celles qu'il y a eu dans le sud-ouest il y a quelques années. Donc on a ces deux images, mais là c'est au même endroit. C'est-à-dire qu'on a ces deux images qui se mélangent en fait. On a les maisons détruites, les bombes, et à la fois on est monté sur un immeuble, sur le toit d'un immeuble. Et vraiment, enfin, c'est les inondations en Asie du Sud-Est, quoi. C'est vraiment de l'eau et juste des toits qui dépassent. C'est assez impressionnant, en fait. Même, on a du mal à réaliser, en fait, ce qu'on voit.
Justement, je prolonge sur cette scène du toit. Il y avait absolument tout ici. Très rapidement, on comprend, on commence à filmer aujourd'hui, et on comprend qu'il faut un point haut. Il faut qu'on puisse se rendre compte de l'ampleur de cette catastrophe, parce que faire des directs dans les rues, c'est très intéressant, mais on voit une rue, puis une autre rue. Nous, on voulait donner très rapidement une vision d'ensemble. Donc, en fait, on a vu un immeuble assez haut. On s'est mis en tête qu'il fallait monter là-haut. Donc un habitant nous a fait monter sur le toit. On a passé près d'une heure là-haut. Et c'est des scènes totalement lunaires. On a pu faire un duplex d'ailleurs là-haut. On voit donc ces toits qui dépassent avec près de 3 mètres d'eau en dessous. Au loin, le Dniepr et derrière les positions russes qui ont été frappées récemment avec des nuages de fumée qui s'étendent un petit peu partout à l'horizon. C'est une scène très impressionnante. Ouais. Ouais, malgré le fait qu'on en ait vu quelques-unes. Ouais, exactement.
Bah, si un réalisateur avait voulu le faire, je pense qu'on n'aurait pas trouvé ça très réaliste.
Ok. Bon, faites bien attention à vous. Continuez à nous raconter ça. Et Gabriel a nous envoyé ces images extrêmement spectaculaires. Et évidemment, on peut voir vos reportages depuis hier soir sur l'antenne de BFM TV. Puis encore toute la journée et demain, évidemment. À bientôt.
Voilà, c'est pas terminé. Merci beaucoup, Greg.
Merci, Grégory.
Salut, les amis. À bientôt. Ciao.
Salut, à bientôt. Bye. Ah, il nous a même pas demandé où on a acheté nos bottes. Je crois qu'il les a pas remarquées.